Midi à tous, c'est l'heure de la tête au carré. On retrouve Mathieu Vidard en direct de Lille, de l'Université de tous les savoirs. Bonjour Mathieu.
Bonjour Angélique. Nous sommes au lycée Fénelon de Lille. On rentre de la cantine et nous sommes prêts à démarrer. Je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La tête. À l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes. La
tête. C'est un grand honneur de vous présenter le lauréat du prix Nobel du physique.
C'est un exercice intellectuel.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
3, 2, 1.
Bonjour aux auditeurs de France Inter. Nous sommes en direct et on vous accueille dans les lycées Fénelon à Lille avec les classes de première et terminale scientifique pour une émission spéciale de La tête au carré. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour parler des addictions aux jeux vidéo et aux ordinateurs. Vous pouvez envoyer toutes vos questions sur le site de l'émission sur franceinter.com où vous attend aussi Mathieu Vidard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Lynn, bonjour à tous. Merci beaucoup, très heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle série d'émissions avec l'Université de tous les savoirs en direct donc du lycée Fénelon de Lille. Une fois par mois donc nous nous déplaçons dans des classes scientifiques des lycées de l'Hexagone et pour cette nouvelle étape eh bien nous sommes dans ce très bel établissement lillois. Qu'on soit au 19e pour parler en effet de l'addiction aux jeux vidéo et aux ordinateurs. Les élèves ont donc planché sur ce sujet, préparé une batterie de questions pour notre invité que je vais vous présenter dans un instant. Il a accepté de jouer le jeu d'une discussion donc à bâton rompu avec en effet vos messages sur franceinter.com. C'est Violaine Ballet qui réalise cette tête au carré spéciale et Sophie Ledoré qui a préparé le dossier de l'émission avec les élèves du lycée Fénelon.
La tête au carré.
Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
De France Inter.
Bonjour Marc Valeur.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et chef de service du centre médical Marmottan qui se trouve à Paris dans le 17e arrondissement et vous êtes spécialisé dans le traitement des toxicomanies. Vous êtes co-auteur avec Jean-Claude Matisiac du livre Les pathologies de l'excès, sous-titré Sexe, alcool, drogue, jeu, les dérives de notre passion et qui est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Est-ce que c'est un thème dont vous débattez souvent avec les plus jeunes puisque c'est eux que vous recevez justement au sein du centre médical Marmottan?
Eh ben, on en débat régulièrement avec la plupart des personnes qui viennent nous voir et effectivement les accros aux jeux en réseau sur Internet sont les plus jeunes de nos clients. Heureusement, les héroïnomanes, cocaïnomanes sont plus âgés que ça. Et c'est un débat permanent et on sait qu'il y a des blogs et des discussions sur Internet sur est-ce que cette addiction existe, est-ce qu'elle n'existe pas, est-ce que ces psychiatres ne sont pas en train de nous
s'inventer
médicaliser l'ensemble
de
l'existence,
oui.
Est-ce que bientôt ils vont venir dans nos chambres pour voir si on ne se tripote pas la nuit, tout ça. Voilà.
D'accord. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Je salue Yves Michaud qui est également avec nous ici à Lille. Bonjour Yves.
Bonjour Mathieu.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur des universités en philosophie et le créateur et coordinateur depuis 2000 hein, de l'Université de tous les savoirs à laquelle donc, nous sommes en partenariat sur cette série d'émissions qui va nous emmener jusqu'au mois de juin. Et vous poursuivez donc toujours les conférences qui sont ouvertes à tout le monde hein, d'ailleurs, pas seulement au lycée. Hein.
Ah oui, bien sûr. Hier, on a terminé notre série sur l'état actuel des connaissances du magnétisme. Avec
ah, c'est un drôle de sujet, ça.
On avait... Alors, ce n'était pas le magnétisme des magnétiseurs, hein. C'était un peu plus technique. On a beaucoup parlé des disques durs, ça a un lien avec les ordinateurs, et on a beaucoup parlé des technologies de l'information et de leur développement. On avait le prix Nobel, je pensais à votre introduction, on avait le prix Nobel,
Albert Fert
qui est venu parler. Et puis, en juin, on va changer de sujet, on va parler du développement durable, mais on va surtout sous l'angle industriel, sous l'angle des industries, les industries du traitement du déchet, les industries du transport, les industries de l'architecture et la construction de bâtiments isolés et respectueux de l'environnement, etc., en collaboration avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Donc le principe de l'UTLS, hein, l'Université de tous les savoirs, c'est toujours cette rencontre entre un chercheur et le public dans tous les domaines de la science.
Voilà, exactement, avec l'État. L'idée, c'est de faire intervenir les gens qui sont... disons, à la pointe de la recherche. Quelquefois, ça fait des conférences un peu difficiles, comme c'était sur le cas du magnétisme, mais c'est l'état actuel de la connaissance. En juin dernier, on a eu une série magnifique sur l'état actuel des connaissances en génomique, connaissance des génomes et pas seulement le génome humain. donc les connaissances de l'ADN, ARN, et donc chaque fois c'est l'état le plus récent de la connaissance.
Vous en êtes à combien de conférences? Parce que vous êtes allé fort dès le démarrage.
Hier on s'est arrêté à 697.
Ah, c'est pas mal.
On a eu 3 de plus, on fêtait la 700e.
Voilà. En tout cas, le site internet de l'UTLS, www.utls.fr.
Où on peut retrouver toutes nos conférences, y compris celles que nous faisons en direction des lycées. Et je pense qu'il y aura aussi la session d'aujourd'hui qui va y figurer.
Voilà, avec la vidéo de la conférence. Et puis, vous restez avec nous, Yves Michaud. Si vous avez des questions à poser aux élèves, vous êtes le bienvenu. Et puis, je voudrais bien sûr remercier et accueillir Florence Delannoy, qui est la proviseure du lycée Fénelon, qui nous accueille aujourd'hui dans son établissement. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est le plus ancien lycée de la ville, je crois, ici. Voilà, on est au cœur de Lille. Hein.
En tout cas, le plus ancien lycée à l'époque de jeunes filles de la ville de Lille.
Ça devait être un couvent au départ ou
c'était un ancien couvent, c'est toute une histoire. Donc, ça l'est resté d'ailleurs un peu dans la mentalité.
Non,
je plaisante, ça a beaucoup évolué quand même.
Les élèves n'ont pas l'air comme ça du tout. Hein.
Et c'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans cet très ancien lycée pour un sujet aussi moderne et d'actualité.
On est à quelques pas de l'école de journalisme de Lille, qui est très réputée.
Voilà, Lille est un haut lieu pour la formation aux médias, l'école de journalisme. Nous travaillons très, très régulièrement avec eux, oui.
Combien de classes scientifiques au sein du lycée Fénelon?
La moitié de nos élèves sont des élèves de classes scientifiques. Et donc, c'est vrai que du coup, c'était un sujet qui, d'emblée, a intéressé beaucoup les enseignants.
Donc, vous les avez fait plancher sur les addictions aux jeux et aux ordinateurs en général, c'est ça?
Parfaitement. Les élèves ont travaillé, réfléchi, et je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de questions.
Alors, je voudrais remercier également Catherine Chenu, qui est la proviseure adjointe, et puis Madame Hoff, est-ce que je prononce bien son nom, qui est infirmière du lycée et qui a traité justement, et qui traite souvent ce thème des addictions au sein du lycée. Alors on va tout de suite lancer la discussion avec également les auditeurs de la Tête au Carré qui nous rejoignent sur franceinter.com. Et pour ouvrir le bal de l'addiction, c'est Théo, je crois, qu'il y a une question. Bonjour Théo.
Bonjour, exactement, j'ai une question. Alors la question est, à partir de quand peut-on parler d'addiction aux jeux vidéo?
Alors, Marc Valeur, le sujet est lancé.
Oui, qu'il s'agisse de drogue, d'alcool, de jeux d'argent ou de jeux en réseau sur Internet, on peut parler d'addiction et on ne peut parler d'addiction que quand la personne concernée elle-même veut réduire ou arrêter sa pratique, mais n'y arrive pas toute seule. C'est la seule définition certaine de l'addiction, parce que du moment que les gens veulent eux-mêmes arrêter et n'y arrivent pas, c'est la preuve qu'ils sont dépendants et c'est la seule raison qui légitime l'intervention d'un thérapeute. Il faut se méfier, à mon avis, de toutes les autres définitions. Il faut se méfier aussi des grilles et des questionnaires qu'on propose un peu partout pour « êtes-vous addict à ?»« êtes-vous accro à ?» Regardez en vous-même et vous saurez, en général, si vous êtes accro ou pas. Si jamais on a des doutes, il y a une chose à faire, c'est d'arrêter. Et si on n'arrive pas à arrêter, c'est qu'on est accro.
Donc ça veut dire quoi, Marc Valeur? C'est que finalement, il faut absolument qu'il y ait une intention de la part de celui qui est accro aux ordinateurs pour pouvoir justement l'intégrer dans cette définition?
Absolument. Absolument. Si on se met à définir de manière objective, en disant voilà, au-dessus de tant d'heures, etc., ça devient problématique. On va définir de l'extérieur ce qui est un problème éminemment subjectif. Si quelqu'un me dit je suis passionné, j'adore ça, c'est le but de mon existence et j'ai envie de jouer 8 heures par jour, en tant que psychiatre, je n'ai rien à lui dire.
Ah bon?
Ben non.
Parce qu'on peut souffrir pourtant d'addiction sans forcément en être conscient.
Peut-on souffrir sans en être conscient? C'est une question pour Yves Michaud.
Alors, le philosophe.
Oh, je crois que la position de Marc Valeur est de bon sens. C'est vrai que moi, ça me fait penser à la première fois que nous avions une intervention dans les lycées. Il y avait beaucoup de suspicions autour de cette addiction. Et on voyait les parents et les élèves et l'administration se découvrir réciproquement. Et en fait, on s'apercevait que ceux qui étaient le plus souvent sur ordinateur étaient aussi souvent des élèves extrêmement actifs et extrêmement dynamiques. Donc la question du temps réellement passé ne peut pas l'évaluer.
Du
moi,
tout
je crois
comme
qu'effectivement,
ça.
C'est en termes de souffrance personnelle lorsqu'on veut décrocher et qu'on n'y arrive pas, effectivement. Alors cela dit, il y aurait quand même quelques contre-exemples. Hein, je veux dire, l'alcoolique heureux. Ça pourrait être un problème.
Oui, mais l'addiction à l'alcool à partir du moment où la personne essaye de réduire, d'arrêter et n'y arrive pas. Avant, il y a des problèmes. On peut dire pour l'alcool, au-dessus de 2 verres par jour pour une femme, 3 verres pour un homme, c'est problématique. C'est problématique parce que là, on a une intoxication. C'est mauvais pour le corps. Ça ne veut pas dire qu'il y a addiction au sens plein du terme. C'est quelque chose de différent. On n'a pas des éléments de toxicité équivalents pour toutes les addictions.
Alors Mathilde, tu as une question, je crois. Bonjour.
Oui. Bonjour. C'était, est-ce qu'il y a une dépendance physique et psychologique aux jeux vidéo ?
Il y a une dépendance psychologique, évidemment, c'est la définition même de la dépendance. Une dépendance physiologique, personnellement, je ne le pense pas. On peut penser, pour les jeux d'argent, par exemple, les machines à sous, le Rapido, le PMU, qu'il y a un équivalent de dépendance physiologique lié au stress répété des séquences de jeu. Dans le cas des jeux vidéo, on peut penser que l'excitation du jeu, des écrans, des séquences répétées de stress peut jouer un rôle, mais on ne pense pas que ça soit un mécanisme physiologique. On pense que c'est un mécanisme psychologique. La plupart des gens qui sont accros aux jeux sont accros à des jeux en réseau, et ces jeux jouent pour eux un rôle de refuge. Ils s'accrochent aux jeux généralement parce que ce qui vivent en dehors du jeu leur paraît trop difficile, et c'est la raison pour laquelle ils surinvestissent le monde du jeu.
Allez, nous sommes lancés dans cette discussion avec les élèves du lycée Fénelon de Lille et puis avec vos courriels sur franceinter.com pour parler donc de l'addiction aux jeux vidéo et aux ordinateurs plus largement. Et vos courriels, franceinter.com.
Someday, all that I can do is wait. I hope that we can talk one day. May your words bring back my faith. For there were too many lies and never much of the truth. Some bad ingredients have spoiled the soup. Right now, I'm lonely. You're lonely. We're lonely. 'Cause I need you and you need me. What are we gonna do? See a way, and the trust that I had in you will come back and find me. Please come back and find me. You know where I'll be. Right now, lonely. You're lonely. We're lonely. 'Cause I need you and you need me. And you need me, I need you, and you need me.
I need you.
You, you,
you need me.
Me, me.
I need you.
You, you,
you need me.
Me, me.
Et c'est Ayo avec Lonely sur France Inter.
Regardez, ça y est.
Mais il n'y a pas de son. Tourne l'antenne.
La tête.
Et le pot.
Tu sais sur quoi je travaille, Diane?
La tête.
Eh bien, il y a eu un petit incident au laboratoire.
Fais-tu le gars de la tête au carré, ça?
Ici Houston, quel est le problème?
Tu vas disparaître, tu seras invisible.
Sur France Inter.
C'est ça, oui.
Les commandes ne répondent plus. I repeat, the joystick is kaput.
En direct du lycée Fénelon de Lille, cet après-midi avec les élèves de classe de première de terminale scientifique pour parler de l'addiction aux jeux vidéo, aux ordinateurs en général, avec notre invité, le psychiatre Marc Valeur, qui est chef de service du centre médical Marmottan, spécialisé justement dans le traitement des toxicomanies. Marc Valeur, justement, est-ce qu'il faut faire une distinction entre ce terme d'addiction, vous qui êtes spécialisé dans les toxicomanies, ou est-ce qu'on parle exactement de la même chose? Il y a une nuance entre les deux termes?
Moi, je pense qu'on parle de la même chose. Je pense qu'on soit dépendant de drogue, d'alcool ou de conduite comme le jeu et notamment le jeu d'argent. Je pense qu'il s'agit exactement de la même problématique. Alors évidemment, toutes les addictions n'ont pas la même toxicité. Mmh. Et bien évidemment, de manière objective, s'enfoncer une aiguille dans le bras pour s'injecter de l'héroïne, c'est évidemment bien plus dangereux que de passer 16 heures par jour devant un écran. Mais il s'agit globalement du même problème. Une autre différence tient à la vision subjective du risque. Quelqu'un qui se plante une aiguille dans le bras et qui s'injecte de l'héroïne sait qu'il prend un risque. Quelqu'un qui va jouer dans un jeu vidéo sait en général qu'il n'en prend aucun. Dans le jeu vidéo, on va mourir 3 ou 4 fois par heure, mais on revit à chaque fois. C'est même bien. Ce qui fait l'intérêt de
voilà,
la chose.
Exactement. Mais je peux dire que je suis un toxicomane des jeux en ligne. Ben le terme est accepté.
Oui, je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. C'est le terme toxicomane qui est bizarre. Hein. C'est mm-hmm. Le toxicomane veut dire fou pour le poison. Ça veut dire des gens qui ont une folle attirance pour ce qui est mauvais, pour les poisons. C'est un curieux terme.
En tout cas, c'est une toxicomanie sans drogue hein, en ce qui concerne donc les jeux vidéo. Alors Joseph, à toi, tu as une question. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Ce serait pour savoir jusqu'où peuvent aller les comportements d'addicts aux jeux vidéo. Enfin, c'est quoi les comportements extrêmes?
Mm-hmm.
Ben, l'addiction se développe au détriment de tous les autres investissements au niveau affectif et social. Donc l'extrême de l'addiction au jeu, c'est de ne faire plus que ça. On a vu des personnes qui, pendant 2 ou 3 ans, n'ont rien fait d'autre que jouer, manger, dormir, jouer. Quand on arrive à 1 an ou 2 à 16 heures par jour de jeu, là, on peut penser que même quantitativement, ça devient très problématique. Donc évidemment, c'est la solitude, l'isolement qui est la conséquence ultime de cette conduite.
Il y a des cas dramatiques, quelques-uns extrêmement rares, mais qui existent. Hein. Je crois que c'est en Corée où un jeune homme est décédé suite à son addiction aux jeux vidéo.
Oui, c'est plutôt ça des défis que les gens se lancent. Il y a eu 1 ou 2 morts en Corée dans des championnats avec ces défis un peu absurdes de combien de temps je vais réussir à jouer avant de m'endormir, etc. On n'est pas forcément devant des cas d'addiction, on est devant des cas de défis absurdes. On pourrait mourir aussi en se lançant le défi de manger le plus de dur d'un coup, comme on le voit dans un film, etc. On a eu quelques cas dramatiques d'addiction où quelques personnes ont été hospitalisées.
À cause d'épuisement en réalité, hein.
Oui, d'épuisement et puis de comment on pourrait dire d'inquiétude telle de l'entourage qu'une hospitalisation en psychiatrie s'est avérée utile, ne serait-ce que pour décoincer la situation.
Marjorie nous dit ceci par courriel. Je voudrais savoir s'il existe des moyens de prévention efficaces contre les addictions. Ça, on va parler tout à l'heure. Elle nous dit « J'ai 2 enfants qui n'ont pas du tout la même attitude face aux jeux vidéo. L'aîné de 11 ans est tout à fait capable de jouer de façon raisonnable, alors que son petit frère de 9 ans se laisse complètement absorber, sachant que je limite leur temps de jeu à 30 minutes, 5 jours par semaine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnalités plus propices à l'addiction ?»
Ben évidemment, l'addiction, quelle qu'elle soit, encore une fois, c'est, comme disait Olivier Weinstein, la rencontre d'une personnalité, d'un produit et d'un moment socioculturel. Non seulement certaines personnalités vont être plus vulnérables à l'addiction, mais elles vont être plus vulnérables à telle addiction qu'à telle autre. Et surtout, il va y avoir des moments de l'existence où on va être plus vulnérable qu'à d'autres moments. Et c'est une des raisons pour lesquelles les addictions commencent souvent à l'adolescence, qui est un moment de vulnérabilité particulière par rapport à toutes les consommations. Oui. Les publicitaires le savent très bien, qui ciblent très particulièrement les adolescents, parce qu'ils se disent, si on réussit à les accrocher, ça va être pour la vie qu'on va avoir des consommateurs de telle marque de chaussures, de fringues, etc. Donc oui, il y a des périodes de vulnérabilité chez des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres.
Et Yves Michaud m'a entouré très discrètement un petit mot sur le courrier de l'auditrice, parce qu'il y a un détail qui est important.
L'aîné, c'est une fille.
Voilà.
Et qui est beaucoup plus modéré, et que son petit frère, en revanche, lui...
Ah oui, voilà. Oui, oui, bien sûr. Alors on sait que
je crois que tu peux en dire quelque chose aussi.
Bien sûr, l'addiction aux jeux en réseau est un phénomène essentiellement masculin. Les addictions, d'une manière générale, les toxicomanies notamment, sont aussi un phénomène plus masculin. On peut constater dans la plupart des jeux que les jeux sont plus faits pour des garçons que pour des filles, et l'addiction elle-même touche plus facilement les garçons que les filles.
Sean, tu as une question. Bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il y aurait une fierté ou un sentiment d'appartenance à une communauté par rapport au fait d'être addict à des jeux vidéo.
Oui, les deux choses existent. Avant d'être addict aux jeux en réseau, on est généralement captivé et passionné par ces jeux-là. Et les gens qui sont captivés et passionnés sont souvent très fiers de faire partie d'un monde, d'un club, d'une sous-culture très particulière qui a son langage, qui a parfois ses codes vestimentaires.
C'est l'idée de tribu, presque. Hein.
Ça fait tout à fait partie de la tribu, et c'est ce qui est tout à fait intéressant dans ce style de jeu que sont les jeux en réseau, c'est qu'ils participent de nouvelles formes de socialisation qui ont été permises par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quand on joue à un jeu en réseau, on fait partie d'une guilde, on s'associe avec un certain nombre de gens, on va se battre contre d'autres guildes qui sont des adversaires, on fait partie d'un monde, d'un univers qui va se battre contre un autre univers, on va aller dans le forum de discussion du jeu, et là on va s'apercevoir qu'on fait partie du club des joueurs contre ceux qui ne jouent pas. Et c'est pour ça que dès qu'un psychiatre parle d'addiction aux jeux vidéo, on va aller sur le blog pour dire qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent nous empêcher de jouer, qui n'y connaissent rien, etc.
Ouais. Alors, juste un petit sondage à main levée parmi les élèves, vous êtes une cinquantaine, qui joue aux jeux en ligne ici? Alors, on va essayer de faire un sondage comme ça à vue d'œil. Apparemment, c'est au moins les trois quarts, hein, très largement. Hein. Marc Valeur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
La moitié,
voit, et des garçons.
Au moins la moitié, et beaucoup de garçons.
Et beaucoup de garçons.
Ouais. Donc une bonne moitié quand même, oui. Alors, Elliot, bonjour.
Bonjour.
Une question pour Marc Valeur.
Oui. Qu'est-ce qui peut pousser à devenir addict?
Deux séries de choses. D'abord, tout ce qui va être attirant dans le jeu, tout ce qui va être captivant dans le jeu. Quand on dit que quelque chose est captivant, ça veut dire qu'on risque d'en être prisonnier à un moment. Mais aussi et surtout, tout ce qu'on va fuir de l'autre côté. Et c'est une des choses qui est étonnante dans ce genre de jeu, c'est que ce qu'on va fuir du monde réel en se réfugiant dans le jeu ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver dans le jeu de l'autre côté. Par exemple, on voit beaucoup de jeunes qui nous disent « Je me réfugie dans le jeu parce que la vie est vraiment trop difficile, la compétition est trop dure, les hiérarchies, j'en ai marre, les notes en classe, etc., tout ça est extrêmement lourd. » Et on regarde l'intérieur du jeu, et qu'est-ce qu'on voit? Il y a 70, 80 niveaux à franchir. Au début, il faut choisir sa race, il faut choisir sa profession, il faut se battre tout le temps, il faut tuer les ennemis sans arrêt. Dans la guilde, il y a un chef, il y a des officiers, il y a des hommes de troupes. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est terrible. Il y a dans le jeu des hiérarchies, de la violence, des combats qui apparemment sont encore pires que ce qu'il y a dans la vie. Donc, ils vont retrouver dans le jeu ce qu'ils prétendent fuir dans la vie réelle.
Et comment mais on explique ce paradoxe, alors ?
Ils ont raison de le faire parce que dans le jeu, c'est du jeu, d'une part. Et d'autre part, dans le monde du jeu, les choses se passent d'une manière logique et d'une manière juste. Ce qui est terrible dans la vie réelle, c'est qu'elle est aléatoire et injuste. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la séduction, au niveau des relations affectives et sociales, la vie est terriblement incertaine, et c'est ça qui inquiète beaucoup de jeunes quand ils arrivent en première, terminale, on voit se profiler des épreuves existentielles terribles, et la tentation peut être grande de se réfugier dans le monde du jeu où il y a aussi des épreuves terribles, mais qui là sont beaucoup plus faciles à maîtriser et à contrôler. On va pouvoir facilement dans le jeu devenir un chef, un leader, on va maîtriser les choses, et c'est ce sentiment de maîtrise qui est à la base de l'addiction au jeu, et c'est le fait que ce soit ce sentiment de maîtrise, de pouvoir, de contrôle sur le monde, qui à mon avis, explique qu'il y ait plus de garçons que de filles qui s'accrochent.
Ouais. Alors, dans un instant, une question d'Antoine, ensuite un courriel de Frédéric, mais une réaction d'Yves Michaud sur ce point.
Tout ce qui s'est dit jusqu'ici me faisait souvenir que chez nous autres, les philosophes, c'est un thème très constant et très ancien, surtout, que celui du jeu comme apprentissage de la réalité. D'abord, le jeu ayant cet avantage qu'il est pour rire. Hein, c'est on meurt, mais pour rire, on meurt pas pour de vrai. Et il y a toute une réflexion chez Schiller, à l'époque de Kant, sur le rôle du jeu comme apprentissage de la réalité, formation. On a même fait ça pour les jeux des animaux. Il y avait un livre fameux de Gross à la fin du XIXe siècle sur les jeux des animaux comme forme d'apprentissage. Et en plus, c'est vrai que les petits chats qui jouent apprennent petit à petit, par exemple, à attraper leur proie. Et c'est vrai que ce qui a changé, c'est que la dimension technologique du jeu, elle est devenue considérable, et en plus avec des moyens de fascination extraordinaires. Et du coup, je dirais, le mode d'apprentissage, de contact avec la réalité, contact simulé, devient ambivalent. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est vrai que le jeu vidéo, le jeu informatique, continue à être à aider l'apprentissage, mais en même temps, il peut complètement déséquilibrer le rapport à la réalité. Ce qui fait que tout à l'heure, Marc Valeur parlait de la toxicité physiologique. Bon, il n'y en a pas. La toxicité sociale, elle peut exister lorsque vous vous retirez complètement du monde social, mais je dirais qu'il peut y avoir presque ce que je qualifierais de toxicité existentielle, c'est-à-dire lorsque votre rapport à l'existence en est complètement modifié. Au début de la guerre d'Irak, il y a eu un bouquin là-dessus. On a identifié une nouvelle génération de combattants américains, c'est-à-dire ceux qui avaient tout appris sur les jeux vidéo et qui tiraient sur tout ce qui bougeait. C'est-à-dire, bon, la dure réalité de la guerre les a ramenés à la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont compris aussi, et ça, c'était le traumatisme, c'est que dans la vie, c'est pas comme dans le jeu vidéo, on meurt, hein, on est gravement handicapé, on est gravement blessé, on est complètement mutilé. Mais, vous voyez, c'est cette ambivalence. Alors
justement,
parce
que Marc Valeur, c'est vrai que ceux qui s'opposent aux jeux vidéo disent souvent, ça coupe de la réalité, ça désocialise, c'est-à-dire qu'on n'a plus de relation véritable, humaine, entre les êtres. On entend autre chose dans ce que vous nous dites, quand même.
Ben oui, parce que le problème, c'est que c'est la fonction du jeu. Il y a une fonction d'apprentissage, c'est bien sûr, c'est pour apprendre quelque chose, mais aussi, c'est du jeu parce que c'est virtuel. Depuis l'aube des temps, on joue parce que là, c'est pour de rire, parce que là, on va pouvoir mourir, parce que là, on va pouvoir tuer. Et donc, à côté du rôle d'apprentissage, il y a le rôle cathartique du jeu, c'est-à-dire que ça va devenir cet espace de l'existence dans lequel on va pouvoir faire tout ce qu'on s'interdit de faire dans la vie réelle. Et dans la vie réelle, on peut avoir 10 fois par jour envie de tuer son voisin, de tuer son professeur, etc. Et on ne va pas le faire. Et dans le jeu, on va
pouvoir. Hein. Je sais pas si vous voyez, ils sont au fond.
Le proviseur aussi.
Ils commencent à avoir les pétoches, mais bon.
Le proviseur aussi. Il y avait cette vieille cantine quand j'étais petit qui finissait par les cahiers au feu, les mettre au milieu. C'était très cruel.
Voilà.
C'était très méchant. Donc ça veut bien dire qu'on a toutes ces envies-là, et heureusement le jeu est là pour qu'on puisse se défouler. Voilà, c'est la fonction principale du jeu. Après la fonction d'apprentissage, c'est la fonction qu'on appelle cathartique, c'est la fonction de défoulement.
Alors Antoine, tiens, j'ai une question d'abord pour toi. Est-ce que tu joues aux jeux en ligne?
Oui, je joue
énormément. Beaucoup.
Bah, énormément.
C'est-à-dire, tu l'évalues à combien de temps par jour à peu près?
Ça peut varier jusqu'à 4h30, 5h par jour.
Ah, quand même, pas mal, ouais. Et alors, qu'est-ce qui te plaît, puisqu'on essayait de brosser un peu le profil tout à l'heure de celui qui joue beaucoup? Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ces jeux en ligne?
Ce qui me plaît, c'est que, enfin, on met de côté sa vie réelle pour justement avoir une autre vie à côté, peut-être plus. Où on est plus élevé socialement, etc. Et voilà.
Voilà. Donc c'est une autre vie qu'on peut s'inventer.
Ouais, en gros c'est ça. Ouais. Et en fait, ma question, ça serait plutôt... tout à l'heure, vous parliez de solitude du joueur. Ça serait pas plutôt une sorte de... Il aimerait... Enfin, il veut parler à d'autres gens qui ne connaît pas, etc., et qui ne peuvent pas le juger en vrai, etc. Et est-ce qu'il serait pas attiré par ça?
Oui, bien sûr. C'est même le paradoxe hein, d'activités qui sont des activités de socialisation et de lien et qui progressivement deviennent des activités d'isolement et de solitude. On peut dire la même chose d'ailleurs de l'emploi des SMS, des chats, des forums sur Internet. C'est des formes de socialisation, c'est une manière d'être toujours en lien. Mais si ça devient une manière répétitive d'être toujours en lien avec les mêmes personnes pour répéter absolument les mêmes choses, ça devient de la fausse socialisation au bout d'un moment. Alors effectivement, il y a très souvent au début une envie terrible d'entrer en contact avec des gens et cette formidable facilité, surtout au moment de l'adolescence pour certains, d'y être sans son corps. On va pouvoir être en contact, on va pouvoir discuter, on va pouvoir avoir des tas d'interactions sans se dire « Oh là là, est-ce que j'ai un bouton sur le nez? Est-ce que je suis pas trop gros? Est-ce que je suis pas ceci et cela ?» Donc ça facilite beaucoup les contacts. Mais chez les gens qui deviennent accros, ça devient une manière très répétitive d'avoir toujours les mêmes types de contacts avec le même type de gens. Et longtemps, c'est c'est un tenant lieu de socialisation qui fait illusion. Voilà. Et quand les gens commencent à prendre du recul, ils se disent « Oh là là, quand je pense que j'ai perdu toutes ces heures à répéter les mêmes choses. » Et ce qui me paraissait si fascinant que ça, c'était quand même de taper des dragons de pixels en appuyant sur des touches de clavier.
Frédéric nous écrit « J'ai 30 ans, je suis complètement drogué à un jeu en ligne, plusieurs nuits blanches par semaine, plusieurs journées de boulot ratées, deux séjours à l'hôpital, et quand j'arrive à désinstaller le jeu, je passe des heures sur Internet, YouTube, Facebook ou les forums. » Voilà pour ce témoignage. Vos courriels sur franceinter.com et les questions des élèves du lycée Fénelon de Lille. Dans un instant, pour Marc Valeur, notre invité, pour parler de l'addiction aux jeux vidéo et aux ordinateurs. Bon après-midi sur Inter.
En or et noir, un camaïeu de griserie, la marque des damnés à l'encre sympathique, comme la carte imprimée d'un continent antique. Tu m'appréciates, joue contre joue. M'aimeras-tu sans quelque ajout? Un signe clandestin sous nos cuirs rubis, de tes carmines mains veux-tu m'ensevelir? Je me tais et je me tairai, tu m'apprécies. Tu m'impressionnes. Dans tes serres amène la poussière. Tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes. Je te hais, mais je me ferai papier carbone. En or et noir, un tatouage presque orphelin, un signe distingué d'inouïe sérigraphie sur la carte imprimée de nos peaux ébahies. Je me tais et je me tairai. Tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes. Dans tes serres amène la poussière. Tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes. Je te hais, mais je me ferai papier carbone.
Armand Méliès, papier carbone dans la tête au carré.
5, 3, 1. Depuis que l'homme est homme,
la tête,
nous nous posons ces questions.
3 au carré.
1. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous?
Sur France Inter.
5, 3, 1.
En direct du lycée Fénelon de Lille, si vous nous rejoignez à l'instant avec les élèves de classe de première et de terminale scientifique pour parler des addictions aux jeux vidéo, aux ordinateurs, une question de Naïma. Alors, je ne sais pas où tu es, Naïma.
Oui, bonjour.
Voilà,
je suis là.
Tout au fond. Bonjour.
Bonjour.
On t'écoute.
J'aimerais savoir quel type de jeux qui peuvent accélérer la dépendance.
Ah oui, est-ce qu'il y a des jeux effectivement qui provoquent beaucoup plus de dépendance que d'autres?
Oui, il y a un type de jeu qui provoque des dépendances, c'est les jeux en réseau sur Internet, les jeux d'aventure en ligne. C'est ce que les joueurs appellent les MMORPG pour Massively Multiplayer Online Role Playing Game, ce qui veut dire jeu de rôle en ligne. D'accord. Massivement multijoueur. C'est ce type de jeu-là qui pose problème. Les élèves qui jouent savent très bien lesquels sont les plus joués actuellement.
Yissine, je crois, une question également. Alors, bonjour. Est-ce que je prononce bien ton prénom ou non?
Non, c'est Yassine.
Tout le monde a l'air de se foutre de moi, donc c'est... Ah voilà, c'est Yassine. Yassine, donc pour une question, on la refait.
Alors, je voudrais savoir s'il y a une partie du cerveau spécial qui est concernée plus par l'addiction aux jeux vidéo.
Ah, alors là, on va interroger la neurologie, effectivement. Marc Valeur.
Il y a beaucoup de théories neurophysiologiques, neuropharmacologiques des addictions d'une manière générale. Elles sont heureusement plus fines que l'idée qu'il y ait une partie du cerveau qui lutte contre une autre. Ça, c'était les théories du début du siècle sur les déséquilibrés. On disait qu'il y a des gens qui étaient déséquilibrés parce qu'on pensait que leur cerveau antérieur avait du mal à contrôler le cerveau postérieur ou que le cerveau développé humain avait du mal à contrôler le cerveau archaïque reptilien,
oui.
Par exemple. Là, on est dans des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus subtiles entre les différents neuromédiateurs cérébraux. La dernière théorie à la mode, ça sort un peu du sujet, c'est le découplage entre les circuits adrénergiques et les circuits sérotoninergiques.
Bon,
et...
on ne comprend rien, là. Hein,
mais... Non, mais ça veut rien dire. C'est la manière dont les scientifiques expliquent les problèmes d'addiction.
Non. Mais est-ce que quand même avec l'imagerie cérébrale, on peut mettre un joueur addict et puis observer ce qui se passe dans son cerveau?
On le faisait déjà au 19e siècle, en essayant de mesurer, par exemple, les érections des criminels sexuels quand on leur montrait des images pornographiques. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on sait bien ce qui va se passer dans une imagerie cérébrale. On va voir s'allumer les zones qui sont en jeu. Quand on écoute de la musique, on va voir s'allumer les zones de l'audition quand on joue.
Mais on n'est pas forcément en érection quand on joue à un jeu vidéo.
Pas forcément, non. Ça dépend du jeu. Quoi. Ça dépend du jeu puis du moment. Mais le mécanisme est le même. L'idée, c'est d'objectiver des choses qu'à mon avis, on sait déjà. Je ne crois pas que l'imagerie cérébrale ait fait pour le moment faire de grands progrès à la question de l'addiction.
Voilà. Yves Michaud.
Oui, moi je crois que je partage le scepticisme de Marc Valeur, mais pour le moment, parce que je crois que l'imagerie cérébrale, c'est juste au début, hein, notamment en termes de capteurs et de sensibilité des capteurs. Donc il va y avoir des développements considérables, mais que pour le moment, on ne peut rien en dire de plus que ce qu'on a déjà appréhendé.
Alexis par courriel nous demande si vous avez déjà connu aussi une dépendance aux sites de rencontres, à la virtualisation des rapports. La multiplication des rencontres possibles n'est-elle pas la meilleure façon de ne s'arrêter sur aucune d'entre elles?
Alors, on voit un certain nombre de cas de ce genre qui, pour certains, se rapprochent de ce qu'on appellerait des dépendants affectifs ou parfois des sex addicts. On a des drames familiaux parce qu'il y a des liaisons virtuelles, par exemple, qui posent problème dans les familles. Et il peut y avoir un surinvestissement d'un contact virtuel par rapport à la vie réelle qui entraîne le même type de problème que dans l'addiction au jeu. Mais pour le moment, ce sont des problématiques beaucoup plus rares, enfin qui donnent plus rarement lieu à consultation.
Ali, alors, tu es là, bonjour.
Bonjour, alors je voulais demander si on pouvait tenir les sociétés qui créent le jeu vidéo pour responsables de ces addictions. Je veux dire, c'est un peu qu'il est responsable avec le système d'abonnement, etc.
Est-ce qu'on pourrait presque se retourner contre elle, ouais, voilà, d'une certaine manière, et les accuser donc de rendre addicts les joueurs?
Oui, alors je pense que toutes les compagnies...
Il n'y a pas eu de procès aux États-Unis en ce sens-là?
Il y a eu quelques interrogations, mais c'était sur les questions de violence dans les jeux. Non, je crois que toutes les sociétés essayent d'avoir une logique de développement durable et se posent réellement ces questions-là. La question est au niveau des concepteurs de jeux et le vrai problème est au niveau des guerres commerciales entre les compagnies. Parce qu'on peut dire quelqu'un qui joue à un jeu d'aventure en ligne, si qu'il y passe un quart d'heure par semaine ou 16 heures par jour, pour la compagnie qui fabrique le jeu, ça revient au même prix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas particulièrement intérêt à ce que les gens soient accros, puisque c'est un abonnement qui n'augmente pas en fonction du temps passé dessus. Donc ils n'ont pas particulièrement intérêt à ce que les gens deviennent addicts. Donc on ne peut pas les soupçonner en première intention de l'avoir fait exprès. Par contre, on peut dire les concepteurs de jeux ont des moyens de rendre les jeux moins addictifs.
C'est-à-dire ?
Et ils ne le font pas assez. C'est une chose assez simple. Par exemple, vous prenez un personnage, un avatar de jeu d'aventure en réseau. Imaginez qu'il ait besoin toutes les 3 heures de dormir 8 heures pour récupérer son énergie. Vous serez obligé de débrancher le jeu pour retrouver votre force, etc. Imaginons qu'il ait besoin de partir 3 mois en vacances par an, sinon il meurt. Vous serez obligé d'arrêter 3 mois de jeu, etc. Donc on pourrait tout à fait imaginer...
Ça n'existe pas, ça, encore.
Alors, c'est testé sur certaines capacités des personnages qui ont besoin de se reposer de temps en temps. Mais c'est simplement, comment dire, la guerre commerciale qui fait que ça est trop peu employé. Parce qu'on se dit, mais si on fait ça, les joueurs vont zapper sur un autre jeu et on risque de perdre des clients. C'est là qu'il y a un problème. C'est plus dans la guerre commerciale que dans l'idée d'accrocher des gens exprès. Parce que si tous les concepteurs se mettaient d'accord, on pourrait très facilement faire des jeux beaucoup moins addictifs.
Yves Michaud, une réaction ?
Moi, ma réaction, c'était par rapport à la question de la violence qui peut pointer là derrière. Bon, parce qu'on accuse souvent ces jeux d'être hyper violents. Alors, deux remarques. La première, c'est que effectivement, ces jeux qui sont violents peuvent avoir des implications dans la réalité, mais au niveau, par exemple, des apprentissages. C'est ce qu'on a vu, justement. Beaucoup d'armées utilisent des jeux vidéo et des simulations pour la formation militaire. Et effectivement, ça déréalise les situations et ça libère, en quelque sorte, une violence. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est anecdotique, mais c'est quand même bon à savoir, c'est que souvent, on dit « Ah, il y a des médias, il y a des spectacles qui rendent les gens violents. » Les dernières études statistiques ont pointé un phénomène auquel on aurait pu penser avant. C'est que, en fait, c'est pas vrai, parce que pendant que les gens regardent des choses violentes ou jouent à des jeux, ils sont pas dans la rue à commettre des violences.
Alors ça, c'est vrai, Marc Valeur. C'est vraiment ce que vous dites aussi dans votre livre, les pathologies de l'excès. C'est ça. C'est que ce sentiment de violence, ces préjugés, ces idées reçues, ne se vérifient absolument pas chez les joueurs.
Absolument. En tout cas, chez tous les accros que j'ai pu recevoir depuis des années à Marmottan, c'est plutôt le contraire. On a plutôt affaire à des jeunes qui sont pas assez agressifs dans la vie, qui se réfugient dans le jeu parce qu'ils ont plutôt peur de se lancer. Il manque un peu d'agressivité dans la vraie vie, on pourrait dire. Ce que soulignait Yves Michaud est très important dans ce qui s'est passé au moment de la guerre en Irak, c'est le contraire de la crainte des parents. C'est qu'on a essayé de faire croire que la guerre était quelque chose de virtuel pour entraîner des soldats à tuer sans remords, on pourrait dire. Mais ce qui est dangereux, bien évidemment, c'est la guerre, c'est pas le jeu. Et l'idée de faire croire que la guerre n'était qu'un jeu vidéo, c'était ça le vrai problème.
Lucas, à toi de jouer.
Bonjour.
Bonjour.
Je voudrais savoir s'il y a des dangers à avoir une double vie.
Docteur, une réponse. Il est embêté le psychiatre là. Est-ce que vous voulez qu'on écoute Louis Bertignac pour réfléchir à cette question?
C'est un problème pour prêtre, c'est pas un problème pour psychiatre. Voilà. C'est ce qu'il y a de danger à avoir une double vie. Tout le monde a une double vie et en général s'en sort assez bien.
Mais vous parlez de vous là.
Avoir une vie dans le jeu et une vie dans la réalité, généralement, on s'en sort très bien aussi, à condition de bien savoir qu'on joue quand on joue, ce qui est généralement le cas.
Bon, ben Marc Valeur, je vous laisse 3 minutes 49, le temps d'écouter Louis Bertignac, et vous pourrez compléter votre réponse pour Lucas avec les élèves, et puis ensuite on parlera quand même des solutions et des aides concrètes hein, pour ces addictions aux jeux vidéo. C'est la Tête au Carré en direct de Lille sur France Inter.
Bébé, faudrait rentrer. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir, à me demander où tu peux bien aller.
Louis Bertignac sur France Inter dans la Tête au Carré. Dernière partie de l'émission autour des addictions aux jeux vidéo au lycée Fénelon de Lille. On va parler bien sûr des thérapies possibles, des aides, avec une question pour commencer de Florian.
Oui, bonjour.
Bonjour Florian, je ne te vois pas, métier. Ah oui,
je suis là.
Voilà, tout
au bout. Donc d'abord, je voudrais passer un petit bonjour à ma classe de terminale.
Ouais. Ça y est, là. Donc, voilà. C'est la fin de l'émission, on se lâche.
Donc voilà, la TS3 du lycée Fénelon. Voilà.
Ben voilà, le message est passé.
Voilà, et ensuite la question, c'est pour savoir, est-ce qu'on peut devenir accro aux jeux vidéo à tout âge, c'est-à-dire qu'on soit retraité ou jeune enfant? Parce que vous disiez au début de l'émission que c'était évoqué à les plus jeunes, mais bon, on peut se poser la question.
Absolument.
Oui, la majorité des consultants entre 15 et 25 ans, on va dire, mais on a un certain nombre de personnes beaucoup plus âgées. J'ai eu des patients de 50 ou 60 ans. Les premières professions touchées ont été les professions de l'informatique et des médias sur Internet. Et bien évidemment, là aussi, il y a des moments de vulnérabilité. C'est évident que quelqu'un qui traverse une période de chômage, une période de rupture affective, va être tenté de se réfugier dans le jeu, comme certains sont tentés de se réfugier dans l'alcool, dans des situations comme ça.
Depuis quand vous observez le phénomène et depuis quand vous avez ouvert ces consultations autour des jeux?
C'est très récent. On a ouvert la consultation aux jeux d'argent en 1998, donc il y a une dizaine d'années, et ça fait à peu près 4 ou 5 ans que, parce qu'on avait une consultation en jeu, des personnes nous ont demandé à consulter pour ce problème de jeu en réseau. Ce n'était pas une volonté de notre part, ça a été un peu une demande spontanée de la part d'abord des parents et ensuite d'un certain nombre de personnes.
Laura, une question.
J'ai une question. Bonjour. Je voudrais savoir si on pouvait aider quelqu'un à s'en sortir.
Alors justement, voilà, c'est la fin de l'émission. Il nous reste 8 minutes pour aborder justement les pistes possibles pour sortir de la spirale addictive.
Si on pense que quelqu'un abuse ou est accro, il faut lui en parler parce que tout ce qu'on peut faire, c'est l'aider à construire le problème dans sa tête. Je disais au départ que l'addiction, c'est la volonté d'une personne de réduire ou d'arrêter une conduite, mais de ne pas y arriver. On peut... de l'extérieur, aider quelqu'un à franchir les étapes pour en arriver là. On ne peut pas aider quelqu'un à arrêter tant que lui-même n'a pas la volonté d'arrêter. À ce moment-là, au contraire, on va se bloquer, se buter d'une manière totalement inutile et on va s'épuiser de part et d'autre. Par contre, bien évidemment, des parents qui ont l'impression que leur gamin joue trop ont tout à fait le droit... de poser des limites, voire de donner des coups de pied aux fesses.
Alors,
les
Karine
parents
dit,
ont le droit de faire leur boulot.
Karine nous dit quels sont les effets possibles sur un ado accro aux jeux vidéo si on le punit d'écran, si on lui interdit l'accès à l'écran.
S'il est accro et qu'on lui explique pourquoi on l'a fait, l'effet peut être tout à fait bénéfique. On a le droit d'interdire...
Ça suffit, selon vous ?
On a le droit... Non, ça ne suffit pas, mais on a le droit d'interdire des choses. Très souvent, on voit dans nos consultations des situations où la carence d'autorité est le problème central.
Source.
On est souvent dans des familles dissociées, on est souvent devant des grandes difficultés d'autorité, et on a l'impression qu'un certain nombre de gamins en rajoutent exprès. Ils attendent une limite, ils attendent que ça, qu'on leur pose des limites, et comme ça ne vient pas, ils sont obligés d'aller très très loin pour manifester encore plus.
Hamza a une question. Bonjour.
Bonjour. Je voulais savoir s'il était possible de gérer son degré d'addiction.
Par définition, en principe, non. C'est-à-dire que si on arrive à gérer, ça veut dire qu'on arrête quand on veut, qu'on réduit quand on veut. Donc, par définition, à ce moment-là, on n'est pas addict. On pourrait dire que l'addiction... c'est l'incapacité à gérer une consommation ou une conduite. Ça serait ça, la définition. Par contre, on appelle, dans le cas de l'alcoolisme, on parle beaucoup du déni de l'alcoolique. Les gens qui disent « mais non, je ne suis pas alcoolique », alors que probablement, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'en passer. On n'est pas devant un problème de méconnaissance, on est devant un problème de mauvaise foi, au sens philosophique du terme. C'est des gens qui se mentent à eux-mêmes pour pouvoir continuer à consommer, quoi.
David, par courriel, nous dit ceci. Vous dites que l'addiction entraîne un isolement, mais la solitude n'est-elle pas, et surtout, à l'origine du comportement d'addiction ?
C'est le genre de cercle vicieux qui est très fréquent dans les addictions. Effectivement, je bois parce que je suis seul parce que je bois pour oublier, j'oublie parce que je bois, et ainsi de suite. Oui, le sentiment...
On parlait de l'enfermement tout à l'heure.
Oui, le sentiment de solitude et le besoin de socialiser est souvent... un élève en parlait tout à l'heure, au début de l'intérêt pour le jeu. C'est parce qu'on va rencontrer des gens, c'est parce qu'on va avoir l'impression de socialiser qu'on va surinvestir ce jeu. Donc il y a déjà un sentiment d'isolement au départ. Et pendant un long moment, ça va aller mieux, ça va rendre service, ça va être quelque chose de très positif. Au bout d'un moment, quand ça empêche des vrais contacts, des vraies autres formes de socialisation, ça redevient quelque chose de négatif. Pour les élèves, il faut se demander eux-mêmes, est-ce que ce loisir n'est pas en train de devenir exclusif ? Est-ce que ça m'empêche pas d'aller faire du sport avec les copains ? Est-ce que ça remplace pas les sorties cinéma ? Est-ce que ça m'empêche pas de voir ma petite copine ? Enfin bon, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser avant même que les parents s'inquiètent en se disant, est-ce que les résultats scolaires ne faiblissent pas ?
Antoine.
Oui, donc je voudrais savoir aussi s'il y a des structures d'aide, enfin pour placer l'enfant quelque part pour qu'il soit aidé par des gens.
Oui, on a quelques consultations à recevoir des cas de dépendance au jeu. Il n'y a pas besoin généralement d'hospitalisation ou de traitement très spécifique. Le traitement, c'est la psychothérapie. Il suffit d'aller voir un thérapeute régulièrement toutes les semaines pour parler, et c'est extrêmement efficace. Ce sont des problématiques très réactives au traitement. Il y a encore trop peu de lieux en France qui sont sensibilisés à ces problématiques, mais ça commence à venir et la plupart des thérapeutes commencent à se former à ce problème.
Donc le cœur du traitement, c'est la psychothérapie, selon vous ?
Absolument. Le cœur du traitement, c'est toujours la psychothérapie, quelle que soit l'addiction. Même dans les addictions avec drogue, même quand on donne des médicaments, quand on fait des hospitalisations, etc., le cœur du traitement, c'est toujours la relation et la psychothérapie. Dans ces problématique-là déjà en réseau, c'est la psychothérapie, et c'est souvent aussi une psychothérapie pour la famille, un accompagnement des parents et parfois des séances de thérapie familiale.
Et on a vraiment de bons résultats, puisque vous observez ces enfants qui viennent chez vous à Marmottan. Après une psychothérapie, quel est l'effet sur l'addiction exactement ?
Je pense que c'est une addiction extrêmement réactive. En quelques mois, la plupart du temps, les choses ont complètement changé et on commence à avoir un certain nombre de jeunes qui ont arrêté complètement la pratique des jeux et qui viennent nous voir parce qu'ils viennent de vivre leur première ivresse ou de fumer leur premier joint et qui viennent nous dire « j'ai l'impression que ça pourrait faire pareil avec ça
». Théo, pour terminer.
Oui, alors on parle toujours des jeux vidéo de façon négative, ou en tout cas très souvent, mais j'aimerais savoir si ça peut développer certaines qualités chez l'individu.
Mais, oui, c'est une drôle de question. D'abord, c'est pas parce que quelque chose est possiblement un objet d'addiction que c'est un mauvais objet. Il y a des addictions à la nourriture, c'est la boulimie. Ça ne veut pas dire que la nourriture est une mauvaise chose. Les jeux sont une excellente chose. Mais le côté positif des jeux, c'est d'abord d'être des bons jeux. Ce qu'on demande à un jeu, c'est d'abord d'être intéressant et que quand on y joue, on prenne du plaisir. Après, on va dire il y a des jeux de tir qui développent l'acuité visuelle, les réflexes, il y a des jeux de stratégie qui développent la réflexion stratégique. Tout ça n'est pas tout à fait faux, mais c'est pas pour ça qu'ils sont faits. Il faut pas exagérer. Si on joue, c'est d'abord parce qu'on y prend du plaisir et parce que ça défoule et parce que, etc. Au niveau entraînement, je pense que c'est assez limité.
Merci beaucoup, Marc Valeur. On peut l'applaudir pour ses explications. Avec ce livre, Les pathologies de l'excès, chez Jean-Claude Lattès. Merci donc à vous tous ici au lycée Fénelon. Merci à votre proviseur Florence Delannoy. Et puis Yves Michaud, on se retrouve le mois prochain avec l'Université de tous les savoirs. Ce sera le 12 février. Et on va se faire une balade à Bruxelles. Au lycée français de Bruxelles.
Et ce sera sur une addiction possible à la sexualité chez
un témoignage, dit Michaud.
Avec le professeur Jean-Yves Ayez.
Voilà, ce sera le 12 février. On peut retrouver bien sûr les conférences avec France Inter sur utls.fr. Merci à Frédéric Sordoyer, Loïc Duros, Gilles Manet, Pascal Bresse et bien sûr Violaine Ballet et Sophie Ledoré. À demain, nous parlons des Simpsons et de la science. Demain mercredi.
France Inter et l'Opéra Comique présentent Fra Diavolo, l'opéra comique pétillant de beurre. Mise en scène par Jérôme Deschamps et dirigé par Jérémy Rohrer, à la tête du Cercle de l'Harmonie. Fra Diavolo, du 25 janvier au 4 février à l'Opéra Comique, à retrouver dans les émissions de France Inter.
Dans un instant, Daniel Mermet. Passez un très bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 15h. Les informations avec vous à Paris, Angélique Boin. Lynn, voilà, que vous connaissez bien, animatrice sur France Inter dans un quart d'heure, et qui va lancer l'émission quand on aura fait une photocopie justement du papier. Voilà. Donc on va faire un essai de voix avec nos invités. Lynn Bastien,
c'est pas du tout la même ambiance.
Je suis en cours de maths, en cours de français avec Madame Douce ici présente.
Très bien. Ça va pour Lynn ? C'est bon. Yves.
Et hier soir, j'ai assez conclué le site sur le magnétisme, avec le stockage de l'information sur une molécule. C'est pas moi qui faisais la conférence. Hein.
Voilà. Ça va pour vous ? Et puis Marc, Valeur ?
Oui, moi, mon dernier cours que j'ai pris, c'était philo avec le TGV Paris-Lille.
Ça vous suffit ? C'est bon ? C'est... Impeccable. Alors, je ne sais pas, on a deux micros, je crois, en fait, pour les élèves. Voilà, donc on a deux micros qu'on va... Voilà, donc on va... Voilà. Alors, en fait, le but... Qu'est-ce qu'on entend ? C'est l'antenne qu'on entend ?
Oui, c'est l'antenne.
Courage votre talent. Devenez auto-entrepreneur. Déclarez-vous sur le site l'auto-entrepreneur.fr ou au centre de formalité des entreprises près de chez vous. C'était un message du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi.
Dans quelques instants, la tête au carré de Mathieu Vidard, mais tout de suite sur France Inter, il est 14h. les informations, Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous, une bonne...
Une heure d'errance musicale. Jamais le passé n'avait été aussi présent.
Durée, sur la route, estimée à 55 minutes.
Je vous emmène sur la route à la découverte ou redécouverte des grands classiques de la musique. Et pour vous aider à mettre une date sur ces notes, nous replongerons dans les archives « Les sons de l'époque ». Alors notez bien, je démarre à 21h tous les soirs, soyez sur la route, je passe vous prendre. L'autoradio sera branchée sur France Inter.
France Inter et la MC93 à Bobigny présentent du 24 janvier au 8 février le festival Le Standard Idéal. Arrêt sur image du théâtre à Zurich, New York et Berlin. Découvrez 7 heures d'Alvis Hermanis, Roméo et Juliette, vu par Natural Theater of Oklahoma et la relève berlinoise. Retrouvez Le Standard Idéal dans les émissions de France Inter.
France Inter, la différence. La différence.
Il est 14h04 sur Inter. Bon après-midi à tous. C'est l'heure de la tête au carré. On retrouve Mathieu Vidard en direct de Lille, de l'Université de Tous les Savoirs. Bonjour Mathieu.
Bonjour Angélique. Bon, nous sommes au lycée Fénelon de Lille. On rentre de la cantine et nous sommes prêts à démarrer. Je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La tête. À l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes. La
tête. C'est un grand honneur de vous présenter le lauréat du prix Nobel du physique.
C'est un exercice intellectuel.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
3, 2, 1.
Bonjour aux auditeurs de France Inter, nous sommes en direct et on vous accueille dans les lycées Fénelon à Lille avec les classes de première et terminale scientifique pour une émission spéciale de la tête au carré. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour parler des addictions aux jeux vidéo et aux ordinateurs. Vous pouvez envoyer toutes vos questions sur le site de l'émission sur franceinter.com où vous attend aussi Mathieu Vidard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Lynn, bonjour à tous. Merci beaucoup, très heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle série d'émissions avec l'Université de Tous les Savoirs en direct donc du lycée Fénelon de Lille. Une fois par mois donc nous nous déplaçons dans des classes scientifiques des lycées de l'Hexagone et pour cette nouvelle étape eh bien, nous sommes dans ce très bel établissement lillois. Qu'on soit au 19e pour parler en effet de l'addiction aux jeux vidéo et aux ordinateurs. Les élèves ont donc planché sur ce sujet, préparé une batterie de questions pour notre invité que je vais vous présenter dans un instant. Il a accepté de jouer le jeu d'une discussion donc à bâton rompu avec en effet vos messages sur franceinter.com. C'est Violaine Ballet qui réalise cette tête au carré spéciale et Sophie Ledoré qui a préparé le dossier de l'émission avec les élèves du lycée Fénelon.
La tête au carré. Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
De France Inter.
Bonjour Marc Valeur.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et chef de service du centre médical Marmottan qui se trouve à Paris dans le 17e arrondissement et vous êtes spécialisé dans le traitement des toxicomanies. Vous êtes co-auteur avec Jean-Claude Matisiak du livre Les pathologies de l'excès, sous-titré Sexe, alcool, drogue, jeu, les dérives de notre passion et qui est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Est-ce que c'est un thème dont vous débattez souvent avec les plus jeunes puisque c'est eux que vous recevez justement au sein du centre médical Marmottan?
Eh ben, on en débat régulièrement avec la plupart des personnes qui viennent nous voir et effectivement les accros aux jeux en réseau sur Internet sont les plus jeunes de nos clients. Heureusement, les héroïnomanes, cocaïnomanes sont plus âgés que ça. Et c'est un débat permanent et on sait qu'il y a des blogs et des discussions sur Internet sur est-ce que cette addiction existe, est-ce qu'elle n'existe pas, est-ce que ces psychiatres ne sont pas en train de nous médicaliser l'ensemble de l'existence, oui. Est-ce que bientôt ils vont venir dans nos chambres pour voir si on ne se tripote pas la nuit, tout ça. Voilà.
D'accord. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Je salue Yves Michaud qui est également avec nous ici à Lille. Bonjour Yves.
Bonjour Mathieu.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur des universités en philosophie et le créateur et coordinateur depuis 2000 hein, de l'Université de Tous les Savoirs, à laquelle donc, nous sommes en partenariat sur cette série d'émissions qui va nous emmener jusqu'au mois de juin. Et vous poursuivez donc toujours les conférences qui sont ouvertes à tout le monde, hein, d'ailleurs, pas seulement au lycée. Hein.
Ah oui, bien sûr. Hier, on a terminé notre série sur l'état actuel des connaissances du magnétisme avec
un drôle de sujet.
On avait. Ouais. Alors, ce n'était pas le magnétisme des magnétiseurs, hein, c'était un peu plus technique. On a beaucoup parlé des disques durs, ça a un lien avec les ordinateurs, et on a beaucoup parlé des technologies de l'information et de leur développement. On avait le prix Nobel, je pensais à votre introduction, on avait le prix Nobel,
Albert Fert
qui est venu parler. Et puis, en juin, on va changer de sujet, on va parler du développement durable, mais on va surtout sous l'angle industriel, sous l'angle des industries, les industries du traitement du déchet, les industries du transport, les industries de l'architecture et la construction de bâtiments isolés et respectueux de l'environnement, etc., en collaboration avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Donc le principe de l'UTLS, hein, l'Université de tous les savoirs, c'est toujours cette rencontre entre un chercheur et le public dans tous les domaines de la science.
Voilà, exactement, avec l'État. L'idée, c'est de faire intervenir les gens qui sont... disons, à la pointe de la recherche. Quelquefois, ça fait des conférences un peu difficiles, comme c'était sur le cas du magnétisme, mais c'est l'état actuel de la connaissance. En juin dernier, on a eu une série magnifique sur l'état actuel des connaissances en génomique, connaissance des génomes, mais pas seulement le génome humain, donc les connaissances de l'ADN, ARN. Et donc, chaque fois, c'est l'état le plus récent de la connaissance.
Vous en êtes à combien de conférences? Parce que vous êtes allé fort dès le démarrage.
Hier, on s'est arrêté à 697.
Ah, c'est pas mal.
On a eu 3 de plus. On fêtait la 700e.
Voilà. En tout cas, le site internet de l'UTLS, www.utls.fr.
Où on peut retrouver toutes nos conférences, y compris celles que nous faisons en direction des lycées. Et je pense qu'il y aura aussi la session d'aujourd'hui qui va y figurer.
Voilà, avec la vidéo de la conférence. Et puis, vous restez avec nous, Yves Michaud. Si vous avez des questions à poser aux élèves, vous êtes le bienvenu. Et puis, je voudrais bien sûr remercier et accueillir Florence Delannoy, qui est la proviseure du lycée Fénelon, qui nous accueille aujourd'hui dans son établissement. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est le plus ancien lycée de la ville, je crois, ici. Voilà, on est au cœur de Lille. Hein.
En tout cas, le plus ancien lycée à l'époque de jeunes filles de la ville de Lille.
Ça devait être un couvent au départ ou
c'était un ancien couvent, c'est toute une histoire. Donc, ça l'est resté d'ailleurs un peu dans la mentalité.
Non,
je plaisante, ça a beaucoup évolué quand même.
Les élèves n'ont pas l'air comme ça du tout. Hein.
Et c'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans cet très ancien lycée pour un sujet aussi moderne et d'actualité.
On est à quelques pas de l'école de journalisme de Lille, qui est très réputée.
Voilà, Lille est un haut lieu pour la formation aux médias, l'école de journalisme. Nous travaillons très, très régulièrement avec eux, oui.
Combien de classes scientifiques au sein du lycée Fénelon?
La moitié de nos élèves sont des élèves de classes scientifiques. Et donc, c'est vrai que du coup, c'était un sujet qui, d'emblée, a intéressé beaucoup les enseignants.
Donc, vous les avez fait plancher sur les addictions aux jeux et aux ordinateurs en général, c'est ça?
Parfaitement. Les élèves ont travaillé, réfléchi, et je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de questions.
Alors, je voudrais remercier également Catherine Chenu, qui est la proviseure adjointe, et puis Madame Hoff, est-ce que je prononce bien son nom, qui est infirmière du lycée et qui a traité justement, et qui traite souvent, ce thème des addictions au sein du lycée. Alors on va tout de suite